cette première journée, comprendre ce qui a changé dans les campagnes, de plus en plus désertées par les habitants, qui soit rejoignent les villes, soit tentent l'exil vers des pays étrangers. Dans le bus, la musique est bien présente. Gianni ne quitte plus sa nouvelle radio pour le plus grand plaisir des passagers. Une parenthèse joyeuse, qui pour moi va prendre fin à la sortie du bus. Le village dans lequel j'avais séjourné est totalement désert. Sous nos yeux, ne subsiste qu'un décor d'abandon.
Tu connais un peu l'endroit ?
Oui, complètement. Je me souviens très bien d'entrer par ici et de voir les grands palmiers tout près de là où ils habitent.
Ça a changé car il n'y a plus d'eau.
Et pourquoi il n'y a plus d'eau ?
Ils ont enlevé la turbine qui arrosait les champs. Le pétrole était trop cher.
Mais je me souviens, c'est ici que ton père cultivait avec son tracteur.
Oui, c'est ici qu'il cultivait le riz.
Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la campagne à cause de ça ?
Oui, beaucoup, à cause du blocus.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce que les importations de pétrole sont très rares et très chères.
Mucho gato.
Face à la pénurie de pétrole, les turbines qui permettaient de pomper l'eau et d'arroser les champs sont à l'arrêt. Le contraste avec le souvenir que j'ai gardé est saisissant. Je me souviens du père de Gianni qui passait ses journées dans les rizières gorgées d'eau. Cette eau qui manque cruellement aujourd'hui et ses tracteurs qui sans pétrole sont à l'arrêt. C'est ainsi que certains villages à Cuba se vident littéralement. De leur maison, il ne reste plus rien, hormis les souvenirs.
Elle était là, notre maison.
Et elle est passée où ?
On a dû la vendre pour aller à Guinness.
Et ils ont tout démonté.
La première chambre était ici. Et là devant, il y avait la porte d'entrée. Et là, l'autre chambre. Moi, je voulais rester ici, mais il n'y avait plus d'eau ni d'électricité. J'étais forcée de partir. Et désormais, il n'y a plus personne. Tout le monde a quitté. Moi, je préférais vivre ici car la vie était plus libre et tranquille. Et si j'avais besoin d'un aliment, tout était à disposition, à proximité, car on les cultivait. On ne devait rien acheter, on trouvait tout.
Et toi, Gianni, ça te fait quoi de revenir ici ?
Cet endroit me manque. La vie était plus tranquille à la campagne.
Vous voyez, hein ? Le village est tellement devenu désert. On a même enlevé l'arrivée d'électricité que les gens avaient attendu si longtemps. Finalement, elle a été enlevée parce qu'il n'y a plus personne ici.
Par chance, Mariella et son fils Gianni ont eu la possibilité de récupérer la maison des grands-parents en ville où ils vivent désormais. Onel, l'ami fidèle de la famille, lui, n'a pas eu cette opportunité. Le sort s'est acharné sur lui. La maison en bois qu'il occupait à proximité de la route a disparu dans un incendie. Tu étais où à ce moment-là ?
Je travaillais et je n'avais que mes vêtements sur moi. C'est tout ce qui me restait. Je n'ai rien pu récupérer de mes affaires.
Et comment le feu s'est déclenché ?
Un court-circuit au niveau du transformateur qui se trouvait sur la route. Et comme ma maison était en bois, tout a brûlé très rapidement.
Du jour au lendemain, Onel a tout perdu. Tout ce qui lui reste, c'est cet outil qu'il cache précieusement dans le tronc d'un arbre carbonisé. Il semble loin, ces éclats de rire et cette insouciance que j'avais vécue à l'époque. En quittant leur village, Onel, Mariella, Gianni et tous les autres ont tourné la page de leur vie d'avant. Comme dépossédés de leur destin, par ce contexte économique et politique qu'ils ne maîtrisent pas. Certes, il y a l'embargo, ces sanctions imposées par les USA. Mais il y a aussi un régime autoritaire qui, s'accrochant à l'idéal communiste, maintient un peuple entier dans la pauvreté. Onel s'est retrouvé sans abri à l'âge de 50 ans. Le gouvernement cubain l'a alors autorisé à occuper une pièce de cette école abandonnée. En échange de quoi, il doit veiller au gardiennage des lieux. Onel passe ici ses journées et ses nuits, loin de tout, sans eau ni électricité.
Cela fait combien de temps que tu es ici?
Cela fait 10 ans, et je me sens très mal. Je me sens mal car je suis tout seul, et je dois respecter des règles très strictes. Je ne peux inviter personne ici, je ne peux même pas avoir une compagne. Tout est réglementé.
De quoi as-tu le plus besoin aujourd'hui dans ta vie?
Dans ma vie, ce qui me manque le plus, c'est un vélo pour me déplacer. Car je dois tout faire à pied. Et je veux aller de l'avant.
Dans ce pays coupé du monde, les objets importés sont très limités. Un simple vélo, même d'occasion, devient extrêmement cher, presque inaccessible. Or, sans bicyclette, et vivant à 7 km de ses amis, Onel n'a quasiment plus de vie sociale. Les déplacements à Cuba sont compliqués. Nous allons nous en rendre compte à nos dépens, ce soir-là.
Bon, c'était de nouveau une journée haute en couleurs et en émotions. Et ça se poursuit, parce qu'il y a eu une coupure de courant généralisée ici, dans la région, et donc on doit marcher de retour du village. La nuit est tombée très vite.
C'est ainsi que nous avons mis 1h30 pour rentrer à la maison à pied. Ainsi va la vie à Cuba, rythmée par les imprévus. Coupure d'électricité, pénurie de gaz, d'essence. Et toujours cette nécessité de s'adapter, comme ce soir-là, où le repas s'est terminé au feu de bois, dans le jardin. Dans un instant, vous verrez que cette débrouille assurance vie. Ne quittez pas. En...
Francisco, ton café.
Oui.
Il va refroidir.
Oui, j'arrive.
Voilà, on est dimanche matin et on m'appelle pour le café. Ça va être l'occasion pour moi de leur parler un peu du système alimentaire à Cuba.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Vous allez voir, les cafés sont servis tout petits. En réalité, on se partage à 4 ou 5 la ration d'une tasse de café. Il faut savoir que le café, à Cuba, on n'en trouve pas des kilos et des kilos comme chez nous. Il y a un rationnement, donc on partage.
Cuba est, avec la Corée du Nord, l'un des derniers pays à appliquer le communisme au sens strict. Tout est réglementé et contrôlé par l'État. Les autorités se chargent de la distribution des biens de consommation. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à distribuer. Tu peux m'expliquer comment fonctionnent les livrets de rationnement?
Comment fonctionne?
Regarde, ça c'est le mois de janvier et ce à quoi on a eu droit.
Des
graines, de l'huile, du sucre.
L'huile, c'est 225 grammes.
Et ça là?
Du sel. C'est écrit ici. Ça, c'est tous les 3 mois. Le riz, 2,25 kg par personne. Le sucre, 1,8 kg. 350 g de haricots, 2 petits paquets de café. Ça, c'est pour se laver.
Un savon par mois.
Ça, c'est pour laver les vêtements. Et celui-ci, c'est pour le corps.
Et
le lait? C'est uniquement pour les femmes enceintes et les enfants.
Les enfants jusque 7 ans.
Est-ce qu'il y a du rhum dans le livret? Le fameux rhum cubain qui est un produit national.
C'est une bouteille, une seule bouteille, pour la fin de l'année.
Ah, pour les fêtes.
Oui, pour la fête.
Et qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde reçoit la même chose.
La même chose.
Il n'y a pas de distinction.
Mais ici, tout le monde est pauvre.
Et Mariela, est-ce qu'il te plaît, ce système?
Je suis habituée.
Depuis petite?
Oui, c'est le seul que je connais.
Et ce mois-ci, il te reste quoi, du rationnement?
Plus rien du tout.
Plus rien. Sauf peut-être un dernier aliment que les Cubains peuvent aller chercher chaque matin dans la boutique officielle chapeautée par l'État. Appelez ça leur petit pain quotidien. Ici, tu ne reçois qu'un pain?
Oui, un pain.
Un petit pain par jour. Chaque personne reçoit un pain.
Oui, c'est ça.
Alors, comment fait-on pour survivre à Cuba avec ce rationnement très limité et lorsque ces aliments sont épuisés 20 jours avant la fin du mois? C'est là qu'intervient le système D. Toute une économie parallèle, pour ne pas dire souterraine, sur laquelle les autorités ferment volontairement les yeux, question de survie. C'est la débrouille. Aux quatre coins de la ville, les habitants installent des petites boutiques improvisées, des échoppes devant leur maison ou à même le trottoir. Chaque muret devient un présentoir. La créativité est à tous les coins de rue. Tiens, ce monsieur-là, lui, sa spécialité. Ce sont les barres énergétiques faites maison.
La comprata non la perrita.
Vous faites tout ça vous-même?
Oui, oui.
Merci, merci beaucoup.
Délicieux.
J'ai décidé d'offrir les courses à Mariella. Elle qui ne demande jamais rien et qui nous accueille avec tant de générosité. Je lui demande de faire toutes les provisions nécessaires. Du café, de la viande, des produits ménagers. Toutes ces choses que d'ordinaire, elle a du mal à s'offrir.
On a acheté 30 tonnes.
Il y en a combien? 5 kilos, c'est ça?
À peu près 5 kilos de poulet, donc là ils sont partis pour un petit bout de temps.
Quand tout est rare, tout est cher. C'est ainsi que certains aliments de base deviennent des produits de luxe. Cette bouteille d'huile de tournesol coûte 8 euros, c'est un quart du salaire moyen.
Hein? Mariella,
prends-en deux, prends deux bouteilles. Un peu plus loin, je les invite dans le fast-food local. C'est ici, le McDonald's de Guinness?
Pardon?
Ma blague tombe à l'eau. Les Cubains sont tellement coupés du monde qu'ils n'ont jamais entendu parler du fast-food le plus célèbre de la planète.
McDonald's,
c'est un fast-food très connu.
C'est un peu comme ici.
Il existe un fossé de génération entre les anciens, qui sont pour beaucoup restés figés dans le Cuba de Fidel Castro, et puis les jeunes générations, qui ont accès au monde extérieur grâce à Internet. Je vais le constater dans cette salle de musculation. Ici, les jeunes ne rêvent que d'une chose, s'échapper. Les réseaux sociaux leur donnent le sentiment qu'ailleurs, tous les rêves sont possibles.
La jeunesse à Cuba veut avoir un futur. Un futur qui n'est pas accessible ici.
Quel est ton rêve dans la vie?
Moi, je fais des études d'éducation physique. Et mon rêve est de partir enseigner dans une autre partie du monde.
Moi, j'étudie la médecine. Il me reste 4 ans d'études pour devenir médecin.
Et tu veux être médecin ici, à Cuba?
Oui, mais si j'ai l'opportunité de partir, je pars.
Avec Internet, les jeunes peuvent voir ce qui se passe à l'étranger.
Exactement. Avant, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, on peut se rendre compte du retard que l'on a par rapport au reste du monde.
Les jeunes prennent le large de manière massive. Les plus âgés, eux, restent. Résultat, l'équilibre social est bouleversé. Pour comprendre ce phénomène, je demande à mes amis de retourner à la campagne. Je veux savoir pourquoi et comment Yanei, la cousine, et Viviane, la petite nièce, ont tout quitté pour rejoindre les États-Unis. Sa maman, Barbarita, elle vit toujours sur place. Je vais me rendre compte que le rêve américain de sa fille n'est sans doute pas aussi idyllique qu'elle ne l'imaginait. Viviane a désormais 25 ans. Partie il y a seulement quelques mois, elle vient pour la première fois de fêter son anniversaire sur le sol américain.
Et quand
a-t-elle annoncé qu'elle voulait partir?
Toujours, elle a toujours voulu partir aux États-Unis. C'est son rêve depuis qu'elle a 12 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas l'opportunité et surtout on n'avait pas l'argent.
C'est une famille péruvienne installée aux États-Unis depuis longtemps qui a fait venir Viviane et qui a payé les passeurs l'équivalent de 10 000 euros. Viviane est engagée par cette famille pour s'occuper du ménage, des courses et de la cuisine au quotidien. Ça lui plaît, les États-Unis?
Pas du tout, non.
Non, c'est gusta?
Non. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde ici à Cuba pense que les États-Unis, c'est le paradis, mais une fois qu'ils arrivent sur place, ils sont confrontés à la réalité. Elle s'ennuie car elle reste à la maison et c'est toujours travail, travail, travail. Regarde, elle me dit qu'elle vient seulement d'arrêter de travailler. Elle dit que c'est un pays juste pour travailler, pas pour fêter ou se détendre.
Ils pensent tous que ça va être comme ici.
Mais c'est pas la même chose.
Là-bas, il faut travailler tout le temps. Elle me dit, maman, ici, il n'y a que le travail qui compte.
Et toi, tu espères qu'elle va pouvoir rester là-bas?
Non, moi je lui dis que si elle veut rentrer, qu'elle rentre. Mais elle me dit, maman, avec tout ce que j'ai fait pour arriver là-bas, j'ai traversé le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, le Mexique, et puis seulement les États-Unis. J'ai quand même pas fait tous ces efforts pour rentrer, donc elle ne rentre pas. C'est seulement quand elle aura le permis de séjour qu'elle pourra faire des allers-retours.
Cuba, l'an dernier, s'est vidé de 3% de sa population. Et le phénomène ne risque pas de ralentir. Les États-Unis ayant lancé cette année une procédure de visa simplifiée pour les Cubains dans le cadre des regroupements familiaux.
Oh, c'est ma maman jeune.
Conséquence, les forces vives du pays quittent le navire. Et pour ceux qui restent, les choses se compliquent chaque jour un peu plus. Un peu plus loin, ce matin-là, mes amis m'emmènent chez un fermier. Il gère une coopérative de production laitière. Et ces dernières années, il a plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre à la campagne. Ici, ce sont les mêmes scènes d'abandon.
Juste là, il y avait une maison il y a encore quelques années. Les gens ont tout quitté et sont partis vers les États-Unis. Dondera,
c'était où ?
Juste là. Sincèrement, ça m'attriste que tous ces gens partent à l'étranger. Ces familles qui étaient là, elles faisaient partie de la communauté. On échangeait avec eux, on était proches d'eux. Et du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Nous, on ne veut pas qu'ils partent. Pourquoi ? Mais parce que ce sont des gens que nous perdons définitivement.
Et puis, cet exode entraîne une autre conséquence inattendue. Dans ce pays, où le salaire moyen est d'à peine 30 dollars par mois.
Quasiment tout le monde ici a désormais un membre de sa famille à l'étranger qui envoie de l'argent. Donc forcément, ils ne veulent plus travailler. Regarde-moi comme je suis. Tous les jours, je me lève à 3 heures du matin pour m'occuper de mes vaches. Tu penses que ça m'amuse ? Eh bien non, ça ne me plaît pas, mais je n'ai pas le choix. Mais je te promets, si j'avais un proche qui m'envoyait par exemple 100 dollars chaque mois, ce qui fait 3000 pesos, et ici on peut faire beaucoup avec 3000 pesos, eh bien je peux t'assurer que j'arrêterai de travailler et de m'occuper des vaches.
La crise à Cuba confronte deux points de vue diamétralement opposés. D'un côté, il y a les Cubains de l'étranger. Pour eux, le régime communiste est l'unique responsable de cette pauvreté généralisée. De l'autre, il y a les Cubains restés au pays, comme ces fermiers. Encouragés par 60 ans de discours officiels et de propagande, pour beaucoup d'entre eux, tous les malheurs du pays sont à imputer aux États-Unis. Ils pointent du doigt cet interminable embargo économique américain.
Moi je dis la seule chose qu'il faut, c'est que le blocus soit arrêté. Sans ce blocus, ça irait, car ici on vit bien, tu comprends ?
Un pays avec un blocus, c'est un pays sans ressources. Et un pays sans ressources, c'est un pays perdu. Notre gouvernement, il a lutté pour le peuple. Si on regarde l'éducation, ici, il n'y a pas d'analphabète. Tout le monde peut voir un médecin et tout le monde est traité de la même façon.
S'il y a bien une chose que Fidel Castro et ses successeurs ont réussi, c'est de maintenir si longtemps dans la tête des Cubains les symboles d'une révolution qui, 60 ans plus tard, semble pourtant à bien des égards désuet. Nous rentrons à la ferme. Ici, les prix du lait sont fixés par l'État. Le libre-échange n'existe pas et la propriété privée reste très relative. L'enrichissement personnel est proscrit. Chacun travaille pour le bien commun. Sur son mur, ce fermier expose fièrement la reconnaissance ultime du travail accompli, décernée par le leader Maximo lui-même.
Notre travail, c'est pour aider les plus démunis et pour régler les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est notre rôle, en tant que travailleurs et ambassadeurs de la révolution. C'est notre devoir.
Fidel Castro vous manque ?
Oui, le leader de notre révolution me manque. Il est la fierté de Cuba. C'est comme mon deuxième papa.
Il n'y a pas deux îles comme Cuba. Un pays si singulier, comme figé dans le temps. Ce jour-là, pour fêter notre présence, nos amis fermiers ont décidé de suspendre leurs activités et célébrer cette rencontre impromptue. Alors, quel que soit le regard qu'on porte sur Cuba, force est de constater qu'il subsiste ici certaines valeurs quelque peu diluées chez nous. Un partage naturel, une résilience à toute épreuve et surtout, une capacité à vivre l'instant présent comme si c'était le seul qui comptait vraiment.
ici, les choses se déroulent vraiment de manière tout à fait naturelle. L'eau est arrivée ce matin à l'improviste chez ce fermier. Le courant est bien passé, d'autres amis sont arrivés.
Ouais, c'est un plaisir que tu sois là.
Voilà. D'autres amis sont arrivés, on a sorti le riz, le poulet, on a sorti les bouteilles de rhum, certains sont allés chercher des biscuits, et puis on a sorti les dominos, qui est vraiment le sport national. Vraiment, Cuba, c'est le pays où on vit à l'instant présent. Et oui, pourquoi courir lorsqu'on est né sur la ligne d'arrivée?
De tous mes voyages à travers le monde, Cuba est sans aucun doute celui où j'ai ressenti le plus de chaleur humaine et de générosité. Le sentiment de faire si rapidement partie d'une famille, sans calcul ni arrière-pensée. Lorsqu'on manque de tout, la solidarité devient la meilleure assurance-vie. Parfois, la seule. C'est notre dernier soir à Cuba. Alors forcément, l'omniprésente musique cubaine résonne plus fort encore que d'habitude. Tous ensemble, nous avons dansé et chanté jusqu'à la fin du jour, sans penser à hier et sans songer à demain. Les sourires sont sur tous les visages et je suis heureux de revivre ces beaux moments avec Mariela, Gianni et Onel, presque comme si rien n'avait changé de notre amitié, 17 ans plus tard. Une belle journée qui se termine, mais au réveil, au fond de moi, un sentiment mitigé. Le départ approche et à nouveau, je vais devoir quitter mes amis cubains. Avant de se dire au revoir, je demande à la famille de m'accompagner en ville. J'ai une surprise pour Onel.
Il ne sait pas encore, mais je voudrais faire la surprise de lui offrir un vélo. Il lui manque un vélo pour pouvoir se déplacer. Il habite à 7 km dans cette fameuse école où il...